Musique en mémoire.
La Gaillarde n'est ni ternaire ni binaire, c'est pour ça que je disais que notre référence c'est souvent juste le temps. Parce que sur beaucoup de Gaillardes, on peut passer très rapidement de 1, 2, 1, 2 à 1, 2, 3, 1, voilà, on peut imaginer. En tout cas, je vais vous signaler des sauts majeurs. Un saut majeur, ça se passe sur, on va dire, sur 3 temps, c'est-à-dire en comptant le saut plus la posture d'arrivée. On se joue cette Gaillarde ?
Bonjour David Mestri.
Bonjour Jean-Luc Ritter.
Bonjour à vous qui écoutez Musique en mémoire. Oh, je sais ce que vous faisiez du 26 au 2 septembre. Ça fait 5 ans que ça dure, David Mestri. C'est une tradition désormais que cet atelier de musique ancienne de Gruyère pendant lequel nos auditeurs ont pu vous rencontrer. Vous êtes aussi un habitué, David.
Voilà, je suis monté quelques jours dans cette semaine donc de fin d'août à cet atelier animé par Philippe Moterio, qui est luthier, qui est professeur de musique et qui a fondé cette association Guitare et Lutte qui anime le château de Gruyère et les environs de concerts, d'ateliers divers, toutes les années, donc à la fin de l'été.
L'être humain qu'on vient d'entendre, c'est Miguel Henry, un maître à danser de ce festival. Il faut dire que la thématique cette année est double. Hein. D'un côté, un atelier de danse renaissance, et puis de l'autre, un atelier de lutherie.
Exact. Et puis, Miguel Henry, qu'on entendait ici, joue aussi de la guitare, ce qui lie les deux, puisque dans cet atelier de lutherie, deux instruments sont construits pendant cette semaine avec deux stagiaires. Ce sont des petites guitares à la manière de la renaissance.
Alors, entre le geste de création de l'instrument et le geste de création corporelle, on va vous suivre, David Mestri. Par quoi on commence aujourd'hui ?
Par quelques sons qui nous viennent de la salle des gardes du château de Gruyère.
Oui.
C'est là que l'atelier de lutherie est installé, avec des instruments de tout travail sur le bois et avec les stagiaires et le maître luthier Philippe Motet. Bonjour Philippe.
Ça va ?
Ça va bien ? Oui. Premier jour de cet atelier de construction de ces guitares.
Premier jour, c'est bien parti tout de suite. Il faut venir voir les pièces détachées tout de suite.
Ah, donc il y a des choses qui ont été préparées à l'avance ?
Oui, mais grossièrement. Voilà, Coralie qui est en train de s'attaquer aux manches d'une des deux petites guitares qui seront construites, guitare Renaissance. C'est un manche assorti au reste de l'instrument. Toute la caisse est faite en merisier. Et Coralie est en train de découvrir que c'est une saloperie.
C'est un bois très dur.
Ouais, très dur.
Là, vous avez un rabot. Vous devez faire une surface droite sur ce côté du manche.
Je dois raccourcir le manche pour qu'il devienne moins large.
C'est un beau bois qui a des ondes, qui a des figures, et ce qui le rend vraiment difficile à travailler.
Et c'est la tradition pour les guitares anciennes, on a des bois de merisier dans les parties dures, dans le manche en tout cas.
Alors c'est un bois mi-dur et on emploie volontiers pour les instruments, pas forcément anciens, hein, quels qu'ils soient, des fruitiers de la région, des bois assez durs comme le cerisier, le poirier, le prunier, qui sont des bois magnifiques.
Et des bois de la région, ça veut dire, est-ce qu'au XVIe siècle, on construisait des guitares ou des instruments de la famille déjà dans notre région, en Suisse romande ou à Gruyère ?
Pourquoi pas, en fait, je sais pas, mais il n'y a pas de raison qu'on ne l'ait pas fait.
On jouait cet instrument, pas seulement en Espagne, on imagine l'origine de la guitare, c'est l'Espagne, les pays méditerranéens.
Par exemple, là, l'instrument qu'on construit, l'original date de 1580, il a été construit au Portugal. Et il y a toute une documentation sur les guitares françaises de l'époque d'Henri II, Henri III, où il y en avait à la cour de France un grand nombre. C'est un instrument qui était un peu l'instrument en vogue dans les cours françaises de la Renaissance. Il n'y a pas de raison qu'on n'en ait pas joué ici aussi. Et les instruments qu'on fabrique partout en Italie, en Allemagne, en Suisse, à l'époque où on faisait les luths, on utilise les érables, les fruitiers de la région.
Instrument de cours, donc, alors qu'on imagine plutôt la guitare comme un instrument populaire, ça c'est une tradition plus récente, 19e.
Peut-être que ça vaut la peine d'aller voir
Il y a quelques instruments qui sont exposés à côté, là, oui, dans cette salle des gardes du château de Gruyère. Il y a des très beaux instruments avec des belles décorations.
un exposé historique sur quatre guitares. Le modèle qu'on construit, que Guy et Coralie vont construire pendant cette semaine, sur 8 jours, c'est une guitare Renaissance. Il y a 2 stagiaires qui font leur instrument, c'est-à-dire cette petite guitare qui a une longueur de corde minuscule de 53 cm, qui a 4 cordes doubles, et qu'on joue essentiellement en se tenant debout pour accompagner la musique à danser. Il y a très peu de répertoire polyphonique pour cet instrument. C'est un instrument, ils appelaient ça un instrument à battre et à danser, c'est-à-dire qu'on fait les battues d'accords dessus, comme aujourd'hui la guitare folk, c'est la même chose, et on peut se promener avec. Donc c'est un instrument très pratique, très courant, et qu'on voit sur beaucoup de tableaux et de gravures de l'époque. Voilà, 1550, disons, la guitare Renaissance se développe un siècle plus tard en ajoutant un rang de cordes.
C'est d'un côté déjà plus épaisse, plus grande. Elle a une des caractéristiques actuelles de la guitare qui est le fond plat, tandis que la première que vous construisez a un fond bombé comme un luth.
Enfin, ça, aussi, c'est toujours aussi une option qu'on peut prendre. Il y a des guitares baroques, particulièrement les guitares italiennes, qui ont des fonds bombés. On appelle ça des guitares à la capucine. Et à l'époque Renaissance, c'est pareil. On peut faire un fond voûté ou bien un fond plat. On appelle aussi ça les guitares en demi-luth. La guitare baroque, celle-ci est une copie d'un modèle de 1687 exactement. C'est un instrument à décor, un instrument qui a évolué puisque la longueur des cordes, il y a 10 cm de plus. Il y a un rang de cordes en plus, on joue 5 doubles cordes. Et puis, c'est un instrument très très raffiné. Aujourd'hui, il y a peu d'équivalent dans le décor.
Une commande un peu luxueuse, j'imagine, pour l'original d'une cour, précisément ou...
C'est un instrument qui est conservé à Paris, à la Cité de la Musique. L'original a été fabriqué pour la nièce de Louis XIV, en bois de violette, qui était un bois favori de la cour. Donc il y a tout un mobilier de cour en Kingwood, en bois de violette. Je dis Kingwood, le mot en anglais, le bois du roi, justement ça vient de là.
Qui est un bois très foncé, très beau, effectivement, qui ressemble
c'est
à
un palissandre violet. Oui, magnifique. Alors cette guitare que j'ai dans les mains est une guitare décorée en losange, un décor à l'arlequin. C'est un instrument qu'on voit sur plusieurs tableaux d'Antoine Watteau. Et ça, c'est une vraie réplique de l'original. Donc,
une des choses impressionnantes aussi, Philippe Mottet, c'est cette rosace en 3 dimensions avec plusieurs rangs de cercles qui descendent à l'intérieur.
Une décoration traditionnelle des guitares baroques en parchemin sur plusieurs étages. En fait, pour se représenter ça à la radio, imaginez un gâteau de mariage petit et à l'envers.
Voilà, qui descend. Qui creuse à l'intérieur, oui. Voilà. C'est vrai, avec des petites perles au bout de ces décorations très jolies. Et c'est un instrument qui est utilisé. Que vous jouez vous-même ?
Oui, oui. Très mal, mais enfin, j'en joue quand même. C'est mon instrument anniversaire, c'est-à-dire que ça fait 25 ans que j'ai fait mon premier instrument, ma première guitare, et je me suis fait un modèle anniversaire un peu luxe. Voilà. Ensuite, la guitare perd ses doubles cordes au tout début de l'époque romantique, donc à l'époque de Boccherini, de Schubert. On joue un instrument qui a des cordes simples.
Et qui devient donc la guitare actuelle avec 6 ou peut-être 5 cordes.
On appelle ça guitare romantique. En fait, elle se joue comme une guitare moderne. Tout est plus petit, la caisse est plus petite. Elle est très souvent faite comme les violons en érable, pour la simple raison que c'était des facteurs de violon qui les fabriquaient. Ça, c'est un instrument en copie d'un modèle anglais, 1828.
C'est encore plus petit que la guitare d'aujourd'hui. Hein. Elle est un peu plus incurvée.
La caisse est plus proche des dimensions d'un violon alto que d'une guitare moderne. Ça n'empêche pas de sonner bien. Et puis, la dernière étape vers la guitare moderne, c'est la lutherie du sud de l'Espagne qui, à la fin du 19e, a développé encore la forme de la guitare vers quelque chose de plus large à la taille, aux épaules. La caisse est plus profonde. Et voilà les premières guitares modernes, 1867, copie de Antonio Torres. C'est une guitare qui est faite en cyprès, donc un bois d'Andalousie très léger. Tous les décors sont en palissandre, il n'y a pas de mécanique, c'est des chevilles en bois, ce qui donne un instrument qui pèse un petit peu moins que 1 kg.
C'est fou, hein ?
Voilà.
Et il y a une évolution qui est parallèle à celle des violons, par exemple, vers des instruments qui ont une sonorité beaucoup plus forte parce qu'on les joue dans des salles de concert plus grandes et parce que la distribution est...
Bon. Par exemple, la guitare baroque, si je vous fais sonner une note d'une guitare moderne. voilà la sonorité d'une corde simple. Je vais vite courir jouer la même chose sur la guitare baroque. Voilà. Je ne sais pas si on l'entend, mais il y a deux fois la même note. On joue simplement deux cordes qui sonnent un petit peu moins fort. Le son est un peu plus flou. Voilà, si je les joue sans les ongles, qui est beaucoup plus correct. Cette sonorité floue est un petit peu moins fort, c'est tout à fait dans le style de l'instrument baroque qui a cette rose très compliquée dont on parlait tout à l'heure pour filtrer en quelque sorte le son qui est moins direct, qui sonne moins fort. L'instrument sonnerait mieux en termes modernes si on enlevait ce décor, mais c'est pas le style. Vraiment, toutes les guitares baroques ont cette espèce de filtre pour les harmoniques supérieures pour qu'elles soient pas trop simples. En fait, c'est toute une esthétique baroque qui ne veut pas vraiment voir de lignes droites. On veut toujours des courbes et des mouvements un peu compliqués en musique comme en peinture. Alors pour répondre enfin à la question, oui, il y a une évolution vers plus fort. Et voilà, ça ne veut pas forcément dire vers mieux.
La vihuela, c'est un instrument qu'on a utilisé beaucoup pour faire la polyphonie, parce que c'est très délicat, c'est la version espagnole de luth. Alors, on a cherché plus de... même de faire mise de Josquin, par exemple, pour la vihuela et la voix, ou pour la vihuela seule, tout à fait.
Il y a des transcriptions donc, qui existaient de ces messes pour l'instrument.
Oui, entières. En fait, Diego Pisador a des messes vraiment entières et beaucoup de messes de Josquin transcrit, et on pense que c'est pour étudier un peu la langue polyphonique et même pour s'habituer avec les mains pour le mouvement technique. Non?
Parce que l'instrument ressemble à une guitare ancienne, à une guitare renaissance, quand on la voit comme celles qui sont construites dans cet atelier de musique aussi, mais ce n'est pas un ancêtre de la guitare, c'est un instrument distinct.
Oui, c'est plutôt un instrument relatif à la luth. C'est juste la forme, mais les cordes et l'intonation sont juste la même que le luth. On peut jouer juste la même pièce avec les mêmes positions de main et tout. Pisador, c'est pas le plus virtuose de la vihuela, mais le langage qui est relatif à la vihuela, c'est aussi virtueux. Même pas la virtuosité qu'on peut, la virtuosité standard, mais la délicatesse qu'il faut avoir pour ça, pour chanter ça et pour jouer ça vraiment propre, c'est aussi important. Et Pisador, comme je dis, c'est pas un virtuose, Mais il est dans la ligne de les autres six vihuelistes. Alors, ce n'est pas le mieux en ce sens. Mais...
Si, donc, il y a six vihuelistes qui sont les plus grands du 16e siècle espagnol, c'est ça?
C'est les autres six parce qu'il y a sept livres en total, sept compositeurs qui ont fait. Alors, ça qu'on fait normalement, c'est une anthologie de chant et vihuela. Et ça, beaucoup de pièces sont originalement pièces vocales pour trois ou quatre voix. On prend la soprano pour chanter et les autres trois pour la vihuela. Et on a élogié beaucoup cette musique comme ça, jouée comme ça, parce qu'à quatre voix, on ne peut pas comprendre bien le texte, mais avec un chanteur, on peut beaucoup
profiter
de la poésie, qui est très très importante dans ce répertoire. Le texte, c'est même plus important que la musique même.
Vos applaudissements peut-être, à vous qui écoutez Musique en mémoire, si vous étiez à ce concert donné dans le cadre de ce cinquième atelier de musique ancienne de Gruyère, un concert qu'on a pu entendre sur Espace 2, David Mestrier.
C'était leur musical, Jean-Luc, et c'était l'ensemble El Cortesano qui chantait et jouait de la vihuela sous les voûtes de l'église Saint-Théodule à Gruyère, avec José Hernández Pastor qui était à mon micro.
D'un côté, donc, atelier de guitare et de luth, de l'autre côté, atelier de danse, toujours dans ce bourg de Gruyère et toujours dans ce festival, David, auquel vous avez assisté. On va retourner du côté de la danse.
Voilà, et un stage de danse qui n'est pas seulement un stage pour les danseurs, mais aussi pour les musiciens, puisque plusieurs des personnes qui s'étaient inscrites à ce stage étaient des professeurs de musique, notamment au Conservatoire de Fribourg, et venaient s'essayer à l'art ménétrier, c'est-à-dire à la façon de jouer de la musique pour faire danser.
Il y a quelque chose qui ne marchera pas, parce que ça trompera forcément les danseurs, c'est sur les raies, là, vous allongez cette noire pointée, comme si ça pouvait... En fait, ça va nous tromper de faire ça. Yam pam pam yam padam pim padam pam padam pim padam pim pam, déjà penser qu'on avance et pas du tout faire piam pam pam piam padam, ça ne marchera pas. Voilà, faut surtout continuer tiam katam pim takatam tim takatam, avoir ça dans la tête, tim padam pim. Et juste pour qu'il accompagne un peu mieux le geste de manière plus distincte, pour savoir ce qu'on aura à faire, que tu enchaînes pas le fa et le do. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu aies une petite respiration là pour sentir qu'il y a un truc particulier. Et puis aussi pour permettre aux autres de négocier comment elles font leur son. En fonction de ça, forcément, ça vous change. Hein. Ça sera peut-être ça. Hein. Ça, c'est imaginable. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait qu'une voix fasse quelque chose de particulier, ça vous oblige à réagir. Sinon, on a l'impression que c'est une erreur. Donc, autre chose qui t'aidera à faire ça, c'est les deux si qu'il y a dans la deuxième mesure. Que tu les sépares un tout petit peu. Quand on veut faire un effet, il faut toujours le préparer en avance. Il faut toujours lui donner des petits éléments qui vont nous dire qu'il va se passer quelque chose, en fait. Parce que si tu fais, tu vois, tu allonges le do du coup. Alors si tu écourtes les notes d'avant, il sera beaucoup plus lisible. Voilà, on refait ça. On se joue, on continue, on se rejoue ça et on continue sur la deuxième partie. Alors vous avez un peu perdu les sauts majeurs, ils sont un peu plus mollassons, c'est peut-être la chaleur, je sais pas. Merci. Donc, on va prendre le parti sur celle-là, d'être sur des... autant le début, on peut etc. Quelque chose d'assez en hauteur, d'assez, comment dire, en représentation. La deuxième partie, on va essayer d'être dans une énergie assez différente. Quelque chose de plus réservé, quelque chose de plus intérieur, on peut dire. La mélodie le permet. Et tu as esquissé quelque chose, c'est de faire un ornement sur le ré de la mesure 6, là. Et ça donne envie d'essayer, ce qui n'est pas facile parce que ça, souvent ça fait qu'on accélère, mais d'être très bref sur ces trois. Voilà. Alors ce à quoi il est très important de penser, c'est quand on revient au tia tam tam qui précède un saut majeur, qu'elle soit vraiment bien précise. Ça, c'est les choses sur lesquelles se calent les danseurs, d'avoir ces choses très précises.
Toute la suite. Hein.
C'est clair, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a donc ? Donc moi j'ai déjà proposé, comme il y avait le basson à la basse, que la viole fasse le ténor. Toi, je connais pas la tessiture de ta vielle.
Je fais ce que je veux au milieu, je me promène. J'ai en plus, moi, hein. J'ai en plus.
C'est ouais. C'est-à-dire que les partitions en général sont écrites pour être en famille d'instruments, ouais. Jouer en famille d'instruments. Quand c'est pas joué en famille d'instruments, souvent c'est plutôt... un mauvais choix de faire l'alto ou de faire les quatre voix que un bon choix parce que le son il se distingue, il n'a pas d'intérêt en tant que tel et il se mélange mal du coup. Alors que quand c'est vraiment la même famille, ça remplit et ça a quelque chose d'intéressant. Donc là, vaut mieux pas la faire. Donc vous trois, vous allez vous retrouver sur le dessus en fait. Et puis basse et ténor. Peut-être que la viole, ça serait peut-être mieux que tu te retrouves là, c'est-à-dire qu'on décale la table vers court. Un petit peu à l'extérieur, comme ça sera plus compact et on comprendra mieux. Donc on va faire deux équipes. Une équipe flûte, vielle, guitare, tambour. Et une équipe violon, viol, basson et tambour. Voilà, tambour qui est tout le temps là. Et guitare aussi. Ouais. La mélodie au début, elle fait. on a donc quelque chose, un intervalle comme ça d'une carte qui monte tout d'un coup dans l'aigu. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la danse pendant ce temps-là? On est à contre-temps du double, en plein milieu en fait. Donc ce qu'on peut faire, c'est un contre-temps, c'est quoi? C'est quelque chose qui peut mettre en valeur le temps. Si on l'attrape comme ça, ça met en valeur le côté posé par contraste. Justement, tu peux impulser quelque chose de nouveau avec cette note qui sort vraiment de la mélodie, tu vois, qui est vraiment... Tiens, parlons-en un petit peu, ça te concerne, toi, en l'occurrence. On a le rythme à la basse qui fait sol, 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 ré, sol, sol, ré. Donc là, c'est des basses très courantes, des brasses où on a la même note répétée. Sol, 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 ça c'est de la percussion. Hein. Et on voit après qu'il y a ré, sol, sol. Donc c'est quoi? C'est une répétition mais décalée. Donc on peut utiliser là un contretemps. Tam, yam, pam, pam, padam, qui pourra être yam, padam, padam, à la danse, hein. On pourra trouver ce qu'on veut après. Mais donc ça, je te le dis pour toi. Donc nous, on va l'utiliser, tu vois. Dès qu'on a des contretemps, en général, c'est un peu ce qui va faire l'identité d'une musique par rapport à une autre. Parce que finalement, les trucs carrés, ils sont tout le temps là. Donc cherchons les choses qui ne sont pas. Donc toi, tu vas te préoccuper que d'un accord sur les deux. Parce que l'autre va se noyer dans le déroulement. C'est un truc qui est quand même typique de la Renaissance et à côté de quoi on n'a pas de raison de passer, c'est quand on a une ligne plus conjointe, qu'elle soit plus mélodique, jouée mélodiquement. Et quand je dis mélodique, c'est en opposition à rythmique, c'est-à-dire au rôle de percussif qu'il y a toujours dans les intervalles assez grands, en fait. Donc, et bien sûr, on a le deuxième double, donc premier double, la césure, s'il doit y en avoir une, c'est après ce sol-là, c'est difficile d'expliquer, mais avant le ré, parce que le ré participe déjà du double suivant, il va vers le double, tu vois ce que je veux dire? Voilà, et ça, donc faire une césure ici, ça va aiguiller tout le monde pour vraiment être bien dans le tempo. Et après, si on prend la suite, voilà, on a la même situation, hein. Alors tu vois là, ça tournicote un petit peu, d'ailleurs ça fait suer Jesse un petit peu. Voilà, et on essaye de trouver la pulsation dessous, parce que je vous parlais de plusieurs superposition de rythme avec guitare, il n'y a plus la percussion, mais il y aurait aussi, il y a la danse. Et bien en fait, ce qu'on doit sentir, c'est que derrière tout ça, il y a le truc, ou alors un truc qui est tout le temps là, qui est le swing, quoi, ce qui est le truc qu'on ne doit jamais perdre, qui est la pulsation, ce qui fait qu'on est en train de vivre. Voilà, c'est ça qui doit toujours être là, très présent.
D'un cours à un stage, d'un concert à un atelier, dans ce festival, dans cet atelier de musique ancienne, cinquième du nom de Gruyère, on quitte là Miguel Henry pour se coordonner aux musiciens, mais on retourne avec vous, David Mestri, pour le stage qu'anime Philippe Mottet-Rio, lui qui est le président de cette association Guitare et Lutte, qui est l'initiateur de cet atelier de Gruyère.
N'oublie pas de bien prendre au départ et oui, à l'arrivée aussi.
Donc cette lame de bois qui est rabotée ici maintenant, Philippe Mottet-Rio, c'est une partie de la table d'après ce que je vois écrit dessus.
Alors pas du tout.
Non.
Non, c'est un des côtés. D'ailleurs, on voit qu'il y en a deux, là, deux petites pièces de bois. Ce sont les côtés de l'instrument qui sont pour le moment des planches plates et qu'on va plier sur le fer chaud. Alors, Coralie va se lancer dans l'opération qui est assez périlleuse, qui fait un peu peur. Le fer est vraiment brûlant. Et puis, on va appliquer le bois contre le fer jusqu'à ce qu'il cède, qu'il plie. Et on va lui donner le galbe de la guitare.
Voilà, il n'y a pas de moule pour ce galbe du côté. Hein,
non, c'est un montage en l'air, sans moule. On a juste la référence du dessin, de la courbe. Et puis, on contrôle que le fer soit bien chaud, en fait, là, si je mets un peu d'eau dessus.
Petites, ça s'est tout de suite évaporé.
Voilà, c'est des petites bulles qui giclent comme ça. Le fer.
Est-ce qu'on mouille le bois aussi pour le
Non, on essaye de ne pas le mouiller parce que ça serait trop simple.
Et puis là, donc,
si on le mouille, en fait, c'est un petit désavantage. C'est qu'une fois qu'il est plié, il ne va pas vraiment rester plié. Il aura tendance à revenir vers un plat. Alors que si on ne l'a pas mouillé, c'est un peu plus difficile à faire, mais une fois que la courbe est donnée, elle reste.
Donc là, c'est une côte de bois d'environ 1 mm d'épaisseur qui va donc faire le tour de la guitare,
voilà.
Et qui va prendre cette forme courbée de façon stable. Alors après, une fois appliquée, voilà. Quand ce fer en forme de se faire courber.
Alors peut-être que je fais le début, Coralie, pour te montrer. J'applique le bois contre le fer. Voilà, et tout de suite. Alors ça, c'est le merisier, hein. C'est comme les bois fruitiers de la famille des cerisiers. Ils se plient très très facilement, mais en fait, ils se plient où lui, il veut. Et c'est difficile de lui donner la courbe que nous, on veut. Alors par exemple ici, on voit bien que le bois, il s'est plié très facilement, beaucoup plus facilement que la contrée glisse en érable, mais les côtes, les ondes pardon, qu'il y a dans le bois forment des espèces de petites facettes. Et alors là, il faut passer assez vite et pas trop lanterner sur ces passages-là où le bois il va se casser assez facilement. Le fer, il est bien chaud. Voilà, une fois que la courbe elle est donnée, comme ça me plaît bien, je la tiens un moment jusqu'à ce que le bois refroidisse. Et cette courbe, il va la garder. Au travail. Qu'il y a un plat et il faut un peu le...
Ça, je rarrondis là.
Oui. Et moi, je surveille.
Mais ça me foulait. Ça fait peur. Ah oui, ça va mieux que les contrées glissent.
Magnifique. Puis il faut le tenir. Voilà.
Ouais, mais il n'est pas droit là. Regarde, il fait comme ça, non?
Alors, c'est une chose aussi à laquelle il faut faire attention. Il faut essayer de te mettre vraiment d'aplomb par rapport au plancher du fer. Okay. Si tu te mets un peu en biais, tu vas lui donner une courbe, effectivement, voilée.
Ouais.
Et difficile à récupérer ensuite.
Là, ça donne quoi?
Tu vois, là, elle est vraiment en travers.
Il faut mettre ouais, je suis voilà. Pas droite, en fait.
Ça, c'est bien.
C'est vrai que ça va plus facile que les contre-éclisses.
Ouais, attention,
hein.
Il va vite. Hein.
Non, mais je fais des bosses.
Tu le tiens bien, oui, mais c'est le bois qui les fait de lui-même. Elles sont difficiles à éviter.
Sur une place.
Et c'est aussi chaud qu'un fer à repasser, là, ce fer-là.
Oui.
C'est le principe du repassage, en fait. On repasse le bois, mais pas pour l'aplanir, mais le courber.
Exactement.
C'est pas ce que je fais, là.
Ouais, c'est bien. Alors là, je reste bien juste à côté hein, pour tenir la main.
Bêtise ce que je fais.
Thank you.
peut changer un peu les rôles si David Pechtry veut essayer, monter le micro.
Je suis curieux de savoir quel
effet ça fait. Peut-être, il faut essayer, parce que c'est trop facile avec le merisier, il faut essayer avec le palissandre.
Voilà,
c'est une pièce de bois déjà plus épaisse.
Plus sombre, violet, c'est du palissandre. Voilà.
Par contre, comme c'est pas une pièce qu'on va utiliser pour cette guitare,
là j'ai moins de scrupules.
Vous avez le droit de la casser.
Un mauvais geste ne va pas gâter la guitare.
Alors, il faut s'appliquer à garder le bois un petit moment sur le fer pour qu'il chauffe, et après 5, 6, 7, 8 secondes, comme ça il commence à plier. Et en tirant avec la main gauche du côté de la sortie là, du fer, voilà, le bois se plie. Là, on le voit, il sert.
Ah oui.
Voilà.
Pourtant, c'est très rigide, effectivement, à l'origine. Et comme il ne faut pas laisser trop longtemps. Il faut...
Comme son nom l'indique, là, le bois de violette dégage vraiment une odeur quand on le chauffe, qui est celle de la violette.
Parfois, c'est très... Et ça devient noir. Hein. Ça brûle un peu le bois, ça risque pas de brûler.
Oui, ça.
Et après, il faut à nouveau le raboter. Alors,
on va le racler pour faire disparaître un peu les brûlures. En tout cas, celles qui sont vers l'extérieur de l'instrument. Voilà donc le principe, on plie les bois pour tous les instruments, que ce soit des violons, une contrebasse, une guitare ou un luth. Toujours de la même manière, sur un fer chaud.
Mmh. Voilà. Et à l'époque, on n'avait pas un outil, ça c'est un outil assez perfectionné, Philippe Mottet du 21e siècle.
Disons, le perfectionnement, c'est l'électricité. Il y a une résistance électrique, mais on peut faire exactement la même chose avec du charbon qu'on mettrait dans une pièce de métal un petit peu ovale. Genre tuyau de chauffage qu'on aplatit, et ça marche très bien. Oui. C'est un peu stressant, on transpire facilement en faisant ça.
Ouais, aussi à cause de la chaleur.
Ouais. Alors, comment ça se passe?
T'as les éclisteurs changent.
Non.
D'accord.
Ça n'a pas.
Ouais, il me semble que c'est une catastrophe.
Ça joue comme ça.
Ouais, alors attends, je vais venir voir de plus près. Je vais m'occuper du chevalet de Guy un petit peu pour lui donner du travail. Et puis j'arrive.
Oui.
Mais cette courbe, pour le moment, elle est bien. On va pouvoir l'utiliser.
Elle n'est pas du tout comme il faut.
No panic.
Alors,
tu peux commencer à dégrossir un petit peu avec le ciseau. C'est pour voir. Ah, mais là, on est dans le fil du bois. Alors, c'est plus agréable que de l'autre côté.
Ça va mieux, là.
Ça va, oui, ça ira beaucoup mieux. Et puis après, tu passes à la râpe dans le sens perpendiculaire. Ouais, c'est là que tu fais éclater les petits bouts d'ébène. Et puis, tu finis avec la lime. Oh. Et puis, tu essayes de faire sur cette fin quelque chose de vraiment similaire à ça, comme un effet de miroir. Ça, c'est une opération sans risque, je crois que je peux te laisser aller. Ouais. De toute façon, tu as déjà fait l'autre côté. Donc là, on voit bien que le bois, il se brûle. Il se brûle beaucoup, il devient vraiment violet. Alors, ça va nous embêter beaucoup là, pour la courbe qu'on devra faire vers l'extérieur. Alors, on mettra un papier entre le fer et le bois, parce qu'on le verra.
Okay.
À l'intérieur, ça gêne pas plus que ça.
Ouais, je comprends.
Ok. Moi, j'ai un peu tendance à pas vraiment regarder la courbe de la guitare, mais à regarder la courbe de la planche, parce que j'ai envie qu'elle soit parfaitement régulière. Alors, elle plie beaucoup ici. Mmh. Elle plie beaucoup ici. Entre les deux, c'est un replat qui me déplaît. Mmh. Et que je vais plier. Tous les bois ondés, parce que les ondes qu'on voit ici dans le merisier, ça c'est quelque chose que tous les bois peuvent avoir. Moi j'ai vu de l'érable ondé bien sûr, du noyer, du merisier, du cerisier, du poirier ondé. Et à chaque fois ça rend le pliage beaucoup plus compliqué. Mais on souffre avec plaisir parce que en fait le résultat final c'est plus beau. Ça c'est pas mal, c'est une courbe.
Si c'est trop courbé, on peut le décourber dans l'autre sens un peu, c'est pas très simple.
Assez facilement, on le met simplement comme ça sur le dessus du fer, et puis qui est plat, et puis ça redéfait la courbe. La Coralie est passée deux ou trois fois au même endroit, on voit le bois qui est brûlé, moi j'essaye de le corriger un petit peu là, à la fin de la courbe, ça veut dire qu'on est passé sur le fer peut-être trois ou quatre fois au même endroit et il ne veut plus se plier le bois. Il faut attendre un moment. Là, il est fatigué. Et on se répète toutes les 20 secondes que c'est bien parce qu'on ne l'a pas cassé. Voilà, c'est effectivement là où j'essaye de le plier plus. Cette courbe ne suit pas celle de la terre. Les contours de l'instrument, cette guitare Renaissance notamment, sont toujours faits au compas, donc c'est des arcs de cercle. On sait que la courbe, elle est régulière. Donc dès que sur la planche elle-même, il y a un à-coup, un petit bout qui est plat, ça ne va pas jouer. Il faut le reprendre. Ces brûlures à l'extérieur ici, on ne pourra pas les récupérer. Il ne faut pas exagérer. Voilà, c'est des arbres. Je pense qu'il y a aussi des individus qui sont plus
rigides
que d'autres. Ouais, ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, on le laisse reposer un peu. Je fais un petit trait de crayon là où il faudra reprendre la courbe. Puis on va faire pareil avec l'autre. Alors voilà, pas se tromper, c'est pour ça qu'on a marqué table dessus. Ça, c'est la partie qui soutiendra la table, ça ira vers le fond. Et puis la flèche ici indique le devant de l'instrument. Donc la courbe qu'on doit lui donner, c'est le miroir de celle-ci. On doit plier comme ça. Donc je prends le bois comme ça et on fait la même opération que tout à l'heure.
Oui.
D'où vient le bois que vous utilisez pour ces guitares, Philippe Matériau.
Le merisier, ça vient de la région de Honance.
Dans le canton de Fribourg, alors voilà.
Où habitaient mes grands-parents. Et puis, ça, c'est quelque chose, l'érable moucheté que j'ai acheté chez un marchand de bois en Autriche.
Et alors, vous voulez encore coller cette pièce? C'est une partie importante du travail qui reste à faire. C'est une partie délicate.
On va essayer pour que ça sèche bien pendant la nuit de poser ce soir déjà le fond. Alors, je me propose, pour ne pas perdre trop de temps dans cet assemblage, de découper les barres juste pour pouvoir mettre le fond là-dessus, mais pas forcément de lui donner, comme c'était le cas sur l'autre. Déjà, le trait de scie très, très exact, on va essayer quand même. On pourrait se partager le travail un peu mieux, peut-être, en faisant comme ça. Aligné devant, il faut lui faire un trait au milieu, y compris là devant. Et puis là, le trait, je vais prendre la séparation. Puis on va aligner le manche au milieu. Faire quelques repères là sur la barre que tu pourras couper.
D'accord.
Il déborde un peu à l'avant et un peu à l'arrière. C'est parfait. Alors je fais une marque ici. Est-ce qu'il y a un réglage disponible quelque part? Bah, ça rigole plus hein, quand il faut.
Symphonie pour rap, scie et ciseaux en même temps. Voilà, c'est le contrepoint à trois voix.
Sur la pointe des pieds ce stage de guitare, David Mechtri. Mais restons à Gruyère toute
restons
cette semaine.
Avec le stage de danse,
Jean-Luc. Oui, avec le stage de danse, et là, un branle des bouffons, interprété par la compagnie Outre Mesure, et les membres de cette compagnie étaient justement les animateurs de ces stages de danse Renaissance.
Du cours de danse et du bal costumé Renaissance qui a eu lieu au cours de cette semaine gruyérienne.
Une semaine gruyérienne à laquelle nous assisterons toujours demain, en passant d'un atelier à un stage. Mais voici ce branle des bouffons. Ce branle des bouffons, là, interprété par la compagnie Outre Mesure, qui peut compter sur Miguel Henry, notamment, comme chanteur.
Et emmené par Robin Joly, Jean-Luc.
Et Miguel Henry et consort qu'on retrouvera demain, toujours dans le cadre de cet atelier Renaissance de Gruyère, je le rappelle, tel qu'il a eu lieu du 26 août au 2 septembre, et tel que vous nous en dévoilez les principaux éclairages, David Mestri. On se retrouve demain, mais sachons nous souvenir que cette émission, chaque jour de l'année, peut compter sur l'assistance de production d'Isabelle Watson, et cette semaine, c'est Christian Morero qui réalise là cette proposition de Jean-Luc Rider.
Espace 2, des copies de nos émissions au 026 323 24 24.
L'affaire vous intéresse ? C'est fait pour. Chaque émission de Musique en mémoire s'entend aussi la nuit, dès minuit, en nouvelle diffusion. Mais nous, c'est donc bien demain à 9h que nous avons rendez-vous toujours dans cette cité de Gruyère pour cet atelier Renaissance. D'ici là, je vous souhaite de très doux moments, pourquoi pas ici ou là, à l'écoute d'Espace 2. Bye bye.
Espace 2, Catherine Buzer.
Bonjour à tous et bienvenue.
L'île au trésor.